Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce vendredi, nous sommes le 11 avril, Auvergne-Rhône-Alpes n'échappe pas à la vague des défaillances d'entreprises. Quelques chiffres dans cette édition. Des associations demandent un classement au monument historique pour l'hôpital Édouard Herriot. Explication dans ce quart d'heure lyonnais. Des vestiges datant du 1er siècle découverts sous le cimetière de Loyas à Fourvière. On en saura plus dans cette édition avec l'interview des archéologues. Interview réalisée par Charlotte Épina. À noter également dans l'actualité le cap symbolique du million de trajets franchis déjà pour les véloves électriques lancés le 29 janvier dernier. Et puis nous parlons également du défi du cœur dans les épinards lancé par Anciela avec un banquet prévu ce samedi.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le parquet général de Lyon a décidé de faire appel de la condamnation de Myriam Jaouin par la cour d'assises du Rhône à 25 ans de réclusion criminelle. C'est la jeune femme qui, travaillant dans une crèche lyonnaise, avait fait boire à Lisa 11 mois du desktop provoquant la mort de l'enfant. Le jury avait décidé de requalifier les faits en actes de torture et de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La famille de Lisa et leur avocate Catherine Bourgade avaient été très déçues de la peine. Auvergne-Rhône-Alpes n'échappe pas à la vague de défaillances d'entreprises. Selon Altares, elle a connu encore sur le premier trimestre 2025 une hausse de 4% par rapport au premier trimestre 2024. À l'échelle du Rhône, c'est encore plus préoccupant. Altares enregistre une hausse des défaillances d'entreprises de 22%. Sur le secteur du bâtiment, qui représente un quart des faillites, le taux de défaillance aurait plutôt bien résisté sur le premier trimestre. Les acteurs des travaux publics sont eux dans l'inconfort en termes de marché car ils vont pâtir de la période électorale entraînant une mise en pause des commandes publiques. Des associations demandent son classement aux monuments historiques. Il s'agit de l'hôpital Édouard Herriot. La demande a été formulée le 31 mars dernier auprès de Rachida Dati, la ministre de la Culture. Rassemblée au sein de l'Institut Tony Garnier, une cinquantaine d'adhérents, dont plusieurs associations, sont à l'origine du dossier. Le classement de l'ensemble de l'hôpital, ou au moins les bâtiments E et F. Ces deux pavillons, dessinés par Tony Garnier, sont concernés par une seconde phase de travaux visant à moderniser l'établissement hospitalier à l'horizon 2032, avec une démolition partielle et une reconstruction de ces deux ouvrages en ne conservant que les façades tout en envisageant une surélévation de 1 à 2 niveaux. Des vestiges datant du 1er siècle ont été découverts sous le cimetière de Loyas à Fourvière. Ce cimetière est placé à proximité du cœur administratif, politique et financier de l'ancienne colonie romaine de Lugdunum. Explication à Charlotte Épina.
Perché sur la colline de Fourvière, le cimetière de Loyas est en réaménagement et a engagé la prescription d'une fouille archéologique après la découverte d'une tour d'enceinte. Les fouilles sont la première étape afin de savoir si oui ou non se trouvent des vestiges et s'ils sont en bon état et surtout s'ils peuvent faire l'effet d'un intérêt scientifique. Sophie François, la directrice au service archéologie de la ville de Lyon, explique comment ils ont fait cette découverte.
Alors en fait, c'est grâce finalement au Jardin des Souvenirs porté par la direction des cimetières, donc le réaménagement d'une partie de l'ancienne ossuaire qui a été déménagée dans le bastion juste adjacent, que compte tenu de ces aménagements, le service régional de l'archéologie a prescrit un diagnostic archéologique.
La voie principale trouvée lors des fouilles a révélé un fossé coupant cette voie dans sa longueur. Cette coupure pourrait correspondre à un des fossés défensifs créés par Claudius Albinus pour empêcher d'atteindre la porte et donc de stopper l'entrée à la ville lors de la bataille de Lyon en l'an 197. De plus, des différents mobiliers ont été trouvés sur cette voirie. Ils proviendraient des Romains qui les auraient prélevés dans leur quartier d'habitation et les auraient déposés dans le but d'évacuer leurs déchets. C'est ce que nous explique Cyril Ducourtial, responsable des opérations archéologiques de la ville de Lyon.
Alors ça c'est le mobilier archéologique, c'est des tessons de céramique qui ont été déposés en fait sur la voie à la fin du 2e siècle, probablement quand le fossé est déjà creusé, est ouvert, le fossé qui a été creusé au moment de la bataille de Lyon, et à partir du moment où la bataille est perdue, la voie est abandonnée, donc on se sert de la voie comme d'un dépotoir, donc une déchetterie en fait, et on jette dessus des quantités de mobilier qui sont prélevés, enfin et pas que, hein, du mobilier, mais aussi des vestiges de bâtiments, de murs en terre, etc., qui constituent les couches qui recouvrent cette voirie.
Les fouilles ont alors révélé bien d'autres surprises, comme une tour circulaire de plus de 8 mètres de diamètre. Découverte dans le prolongement du rempart antique, cette tour constitue le flanc septentrional d'une porte d'entrée à la ville antique de Lugdunum.
Ce qui a permis de mettre au jour la porte, une des portes d'entrée, la porte de l'océan, puisque c'est la voie de l'océan qui allait jusqu'à Boulogne-sur-Mer. Donc on a une porte d'entrée avec une porte piétonne, on a une demi-porte d'entrée, on a une porte piétonne, une partie de la porte pour les charrettes, et puis il devait y avoir de l'autre côté une autre porte piétonne, puis une deuxième tour qui là sont sous le bastion. Et associé à cette tour, une importante voirie, donc vraiment maçonnée avec des fondations extrêmement importantes et des dalles extrêmement jointives et bien aménagées qui constituent finalement l'entrée de la ville. Donc c'est une voie, mais c'est aussi une place pour permettre de tourner et de rentrer dans la ville de Lyon.
Et la tour d'enceinte n'a pas été la seule découverte. À plus de 5 mètres de profondeur se trouvait la voie de l'océan, qui était l'un des axes principaux pour rejoindre anciennement la ville antique.
Mais déjà, on ne connaissait pas l'emplacement de la voie de l'océan. On a quelques vestiges à Vaise, mais pas sur Fourvière, donc on ne savait pas exactement où est-ce qu'elle passait. Et puis surtout, les portes antiques, on ne les connaissait pas pour la ville de Lyon. Donc c'est la première fois qu'on a vraiment une porte antique, donc une entrée de la ville. Donc ça montre aussi cette enceinte, on pensait qu'elle tournait beaucoup plus tôt. Donc ça montre aussi qu'à cette époque-là, donc on est au milieu du 1er siècle après Jésus-Christ, l'extension de la ville antique est beaucoup plus importante que ce qu'on pensait jusqu'à présent.
Les dalles de cette voie de l'océan reposent sur une épaisse couche maçonnée, montrant les efforts des Romains pour s'adapter au relief des pentes de la colline de Fourvière. Comme l'explique Sophie François, une fois sortie de la ville, la voie tourne en direction du nord pour redescendre vers Vaise. La ville de Lyon a décidé de recouvrir les vestiges afin de les conserver au mieux. Sophie François explique la procédure.
En fait, l'aménagement du Jardin du Souvenir, c'est une parcelle qui est en L. Donc là, on a fait une partie du L. On va reboucher les vestiges. C'est la meilleure solution, de toute façon, pour les conserver et les préserver. Donc ça va permettre de fouiller la deuxième partie des vestiges. Et puis, à l'issue de cela, une partie du Jardin du Souvenir va pouvoir être construite et il y aura un projet. Ça reste aussi à financer pour permettre la valorisation des vestiges. Mais ce sera dans plusieurs années, probablement, puisqu'il faut réfléchir avec des architectes des bâtiments de France aussi pour mettre en valeur ces vestiges.
Alors si vous souhaitez voir de vos yeux les magnifiques vestiges, prenez des notes car des visites pour le public seront organisées sur réservation les samedis 12 et 19 avril entre 14h et 17h avec un maximum de 20 personnes. Rendez-vous au cimetière de Loyas.
Merci Charlotte. Deux radars chantiers installés sur la 46. Des travaux d'entretien d'ouvrage sur le viaduc de Sermenaz sont en cours, à hauteur des communes de Rieux et Néron, afin de sécuriser la zone des travaux. Les services de l'État mettent en place donc deux radars autonomes. Ces deux équipements visent à garantir le respect de la vitesse maximale autorisée au niveau de ce chantier, qui a été abaissé à 70 km/h. Ils renforcent également la sécurité des usagers aux abords des travaux, ainsi que celle des agents travaillant sur le chantier. Le cap symbolique du million de trajets a été franchi pour les vélos électriques, lancé le 29 janvier dernier par la métropole de Lyon. Le vendredi 4 avril, vendredi dernier, le record du nombre de trajets en une seule journée est même tombé avec 49 524 trajets, vélos classiques compris. Au total, 1 051 963 trajets ont été effectués sur le mois de mars 2025 pour tous les vélos, soit une progression de 14% par rapport à mars 2024.
Lyon demain, média agitateur d'idées.
Ce samedi a lieu le grand banquet paysan du défi du cœur dans les épinards, porté par 5 associations de la région lyonnaise, mobilisant déjà 143 personnes. Ce défi vise à soutenir une agriculture bio-paysanne en difficulté. Pour en savoir plus, nous avons rencontré Anaïs Frouin, coordinatrice du défi.
Le défi du cœur dans les épinards, c'est un défi qu'on organise pour soutenir une alimentation bio, paysanne et locale dans la région lyonnaise. C'est un défi qu'on organise aux côtés de d'autres associations qui sont engagées sur les questions d'alimentation. Et l'idée, c'est de faire en sorte que plein de personnes dans la région lyonnaise se mobilisent sur ces questions et passent à l'action, que ce soit en rejoignant des AMAP, en consommant dans des épiceries bio, en montant des AMAP si c'est nécessaire près de chez elles, en lançant des petits banquets paysans localement et en mobilisant toutes les personnes autour d'elles pour qu'elles puissent elles aussi faire évoluer leur manière de s'alimenter.
Quand on dit immobilisation, c'est quoi ? C'est à son niveau personnel ou c'est organiser des choses collectivement ?
En fait, c'est un peu les deux. Ça peut être à la fois soi-même rejoindre une AMAP, soi-même aller consommer dans une épicerie bio, dans un groupement d'achat, mais c'est aussi se faire l'ambassadeur ou l'ambassadrice de cette manière de s'alimenter et en parler avec ses voisins, avec ses collègues, avec ses amis. Il faudrait un effet un petit peu tache d'huile de mobilisation.
Qu'est-ce qui te pêche aujourd'hui dans l'alimentation de monsieur tout le monde ?
Depuis 2020, au moment du Covid, il y a beaucoup de personnes qui se sont mises à consommer de manière directe avec des producteurs, qui ont rejoint des AMAP, qui se sont mises à consommer bio. Il y a eu un grand boom à ce moment-là. Et depuis, à cause de plein de raisons différentes, c'est une consommation qui a baissé. Mais nous, on pense que c'est vraiment important de consommer des produits bio et paysans pour plein de raisons différentes, parce que ça permet aux agriculteurs et aux agricultrices de ne pas être exposés aux pesticides qui sont très dangereux pour leur santé, ça permet de préserver la biodiversité. On sait que l'usage des pesticides et la destruction des habitats en lien avec l'agriculture, ça fait baisser énormément la biodiversité depuis les 50 dernières années. Et on sait qu'une alimentation bio et paysanne, en tout cas une agriculture bio et paysanne, c'est une agriculture qui préserve la biodiversité de nos campagnes. Et puis c'est bien pour les personnes elles-mêmes, pour leur santé, pour leur lien avec l'endroit où sont produits les aliments qu'ils ou elles mangent.
Qu'est-ce que vous répondez quand on vous dit il y a le prix aussi, hein?
Bah ça, c'est une vraie grande question qu'on nous pose beaucoup, la question du prix. Il y a un peu deux aspects. C'est que quand on consomme des produits d'alimentation conventionnelle, en fait, peut-être que c'est moins cher, mais il y a énormément de coûts sur la société, des pollutions de l'eau, des coûts de santé qui sont en fait pas imputés sur les produits, mais qu'on va... On va quand même payer soi-même ou au travers de nos impôts. Et en fait, certes, ça peut être à des endroits un peu plus chers, mais en fait, quand par exemple, on consomme en circuit court, c'est-à-dire quand on va dans des AMAP ou quand on va directement auprès des producteurs et productrices, eh ben, le prix d'un panier équivalent entre la grande surface pas bio et le circuit court bio, il est très proche. En fait, c'est une question de comment est-ce qu'on consomme et des endroits où on va consommer finalement, et pas seulement de est-ce que c'est bio ou est-ce que c'est pas bio.
Anaïs Frouin, coordinatrice du défi du cœur dans les épinards. Un mot de sport en football en Ligue Europa. L'Olympique Lyonnais arrache l'égalisation sur le fil de partout dans les arrêts de jeu en quart de finale de la Ligue Europa et préserve ainsi ses chances pour le match retour à Manchester. L'Olympique Lyonnais a battu un record d'affluence en Coupe d'Europe au Groupama Stadium avec 58 000 spectateurs. En basket, en Euroleague, l'ASVEL s'incline sur le fil face à Monaco. Privé de 5 joueurs, l'équipe villeurbanaise a été héroïque face à son grand rival monégasque. Le club du Rocher a toutefois pu assurer sa place dans le top 4 de l'Euroleague dans les dernières secondes en s'imposant 83-78 à l'Astrobal. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. On se retrouve lundi pour la prochaine édition du Quart d'heure Lyonnais.